Radio Kapi. Oh, Kapi.
Midi pile à Kinshasa, 13h à Bukavu, au sud Kivu. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Nord Kivu, un homme armé et en tenue militaire a été tué hier mardi soir autour de 19h sur la route Kilidjiwe au quartier Majengo dans la ville de Goma. Certaines sources locales affirment que l'infortuné serait un combattant en déploiement de Masisi pour Nyiragongo. Et puis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication appelle entre autres les directeurs des programmes des organes de presse à l'autorégulation à l'interne avant toute diffusion de leurs émissions. Lors de sa conférence de presse hier mardi à Kinshasa, le président de cette institution a fait interdiction à tous les médias de se livrer à l'exercice de la pré-campagne électorale. L'invité de ce journal est le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kadutu dans la ville de Bukavu, Dr Julien Kasimira. Kasamira parle de l'effectivité de la gratuité de la maternité au sein de cet hôpital. Mesdames, messieurs, bonjour. À Goma, au Nord Kivu, un homme armé et en tenue militaire a été tué dans la soirée autour de 19h hier mardi sur la route Kilidjiwe au quartier Majengo. Certaines sources locales affirment que ce dernier serait un combattant en déploiement de Masisi pour Nyiragongo. Pour sa part, les porte-parole du gouverneur parlent d'un groupe de bandits neutralisés par une patrouille de militaires. Détail avec Bernard Nyangi.
Les tirs nourris qui ont accompagné cet incident autour de 19h hier ont semé la panique dans ce quartier nord de la ville de Goma. Quelques témoins parlent des trois combattants locaux, apparemment en provenance de Masisi à moto pour le territoire de Nyiragongo, qui se serait disputé avec un autre motard en état d'ébriété. Alors que les éléments de la garde républicaine tentaient d'intervenir, la situation a tourné à un échange de tirs à l'issue duquel un combattant a été tué, ses deux coéquipiers arrêtés et les deux armes qu'il détenait récupérées par les GR. Ces sources affirment que cet énième incident de genre dans cette partie nord de la ville où de plus en plus de bandits armés circulent. Les dix combattants, qui s'appellent les Wazalendo, et des éléments incontrôlés des forces de sécurité, sèment ainsi une confusion généralisée. Contacté, le porte-parole du gouverneur militaire affirmait, lui, que la patrouille de l'armée est plutôt intervenue en réponse à une alerte du chef de quartier concernant une opération de vol de motos par des hommes armés non identifiés. Selon le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, la patrouille s'est approchée du lieu, tombant sous le feu d'hommes armés non identifiés, auquel feu il a tout de suite répliqué afin de neutraliser les auteurs. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Au sud Kivu, nous venons de l'apprendre, une attaque d'un site minier a fait 4 morts et plusieurs blessés graves. L'incident a eu lieu dans la nuit de dimanche 8 octobre dernier au site minier d'or de Akimboa à Misisi, dans le groupement de Basikasilou, en secteur de Nganja. L'administrateur du territoire de Fizi confirme cette information et indique que parmi les morts figurent des exploitants chinois et des militaires des FARDC. Sami Kalonji Badibanga a été joint par Emmanuel Elamejwa Kabedi.
Les bandits armés et munis des AK-47 ont fait irruption dans la concession. Les Chinois qui exploitent le minerai d'or à Akimba, à Misisi, en groupement de Basikasilou au secteur d'Nganja. Il y a eu échange de coups de balles entre ces assaillants et nos éléments des FRDC commis à la carte de ces étrangers. Le bilan de ces affrontements, il y a eu 4 morts, dont 2 Chinois. Et du côté congolais, nous avons le sergent-major du 3305 et le sergent-major. Tous ont trouvé la mort. Il y a eu aussi 2 blessés, parmi lesquels un sujet canadien, l'interprète de ces Chinois, touché à la jambe droite. Ces assaillants qui ont fait éruption pour la deuxième fois dans la concession des Chinois ont emporté tous les téléphones, des valises pleines d'argent et aussi les documents migratoires dont le passeport ont été emportés. Ces assaillants seraient venus des Kalonda Kibuye comme d'habitude.
Au Nord Kivu, on apprend l'évasion lundi dernier des 15 détenus de la prison de Lubero Centre, chef-lieu du territoire de Lubero. Selon des sources sécuritaires, certains évadés sont des condamnés pour des infractions graves. L'administrateur du territoire annonce l'arrestation des policiers qui étaient commis à la garde de la prison. Marcel Papimoukeba pour les détails.
L'évasion à la prison de Lubero Centre est intervenue lundi aux environs de 3h du matin. Selon des sources sécuritaires, ils sont 15 détenus condamnés pour viol et vol à main armée. Ils se sont servis d'une scie à métaux pour couper la grille de la prison, ce qui leur a permis de s'évader vers une destination inconnue. D'après les mêmes sources, celle des policiers était commis à la garde de la prison. Ils ne seraient pas intervenus pendant l'évasion des détenus, ajoutent nos sources. L'administrateur du territoire des Loubéraux annonce leur arrestation et l'ouverture d'une enquête. D'après le colonel Anle Kiwewa, une femme présumée complice de l'évasion vient également d'être interpellée. Elle est accusée d'avoir facilité l'entrée dans la prison de la scie à métaux dont se sont servis les détenus pour s'évader. Pour l'instant, les fugitifs sont toujours dans la nature et les recherches se poursuivent pour tenter de ramener les 15 évadés dans cette maison carcérale qui héberge actuellement 31 détenus. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Parlons à présent de cette directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, qui appelle entre autres les directeurs des programmes des organes de presse à l'autorégulation à l'interne de leurs émissions avant toute diffusion. Christian Boussembe, président de cette institution, l'a déclaré hier mardi 10 octobre ici à Kinshasa lors d'une conférence de presse consacrée essentiellement à la gestion des impacts des réseaux sociaux. Ses propos ont été sélectionnés par Paul Matendo.
Je vous présente donc quelques innovations. Vous aurez certainement le contenu, mais voici en si peu de mots les grandes innovations de notre directive. La responsabilisation des acteurs sociaux et animateurs des débats publics. La participation des directeurs de programme à l'autorégulation interne des médias avant la diffusion. L'interdiction de la publicité illicite dans les réseaux sociaux sans l'avis du CESAC. La responsabilisation des hébergeurs, fournisseurs et internautes au respect des textes légaux et réglementaires. Nous appelons donc à la conscience de tous les utilisateurs de réseaux sociaux, à tous ceux qui ont de compte de bien vouloir se rappeler que, désormais, avant chaque clic, avant chaque tweet, ils doivent penser aux conséquences parfois irréversibles.
Et parlant des élections de décembre 2023, le président du CESAC fait interdiction à tous les médias de se livrer à l'exercice de la pré-campagne électorale. Et toujours à propos du processus électoral, la police nationale congolaise d'Oicha, dans les territoires de Beni au Nord Kivu, s'est dit prête à 90% pour la sécurisation des élections de décembre 2023. C'est après une série de formations dont ils ont bénéficié de la part de la police de la MONUSCO, INPOL. Hier mardi, environ 150 policiers ont mis en œuvre un scénario imaginaire de maintien et de rétablissement de l'ordre public dans un centre de vote. Une démonstration faite en présence du chef de la composante police de la MONUSCO, le général Modi Bereté, à mission à Oicha. Sadiki Aboubakar était sur place. Voici son reportage.
Nous sommes devant un bureau de vote. Une dizaine de policiers, armés de bâtons et boucliers, font face à de nombreux manifestants qui demandent l'annulation des élections dans ces centres où ils estiment avoir constaté de la fraude. La tension monte d'un cran, c'est la débandade. Le commissaire supérieur adjoint François Kalonda, commandant local de la Légion nationale d'intervention Léni, explique le scénario.
Nous avons simulé une situation d'un bureau de vote d'une personne mal intentionnée, sortie de là en criant qu'il y a eu bourrage des urnes. Alors, le scénario consistait à ce qu'on puisse évacuer les gens qui étaient autour du centre de vote pour laisser que le vote puisse continuer.
Le commandant intérimaire de la PNC dans le territoire de Beni, le commissaire supérieur principal Michel Mbala, plaide pour la dotation en matériel des policiers formés pour leur efficacité.
La musique ne sert à rien si le public est sourd. Par là, je voudrais dire ceci. Les experts sont là, ils nous entraînent, mais il y a un problème de matériel qui se pose. Et ce qui fait que même après l'entraînement, si nous n'avons pas d'équipement, donc ça ne sert à rien.
Le général Modi Bereté, commandant de la police de la MONUSCO, s'est réjoui de cette démonstration qui justifie, selon lui, l'accompagnement de la mission dans le processus électoral en cours en RDC. Des retours de Oicha, Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
En Ituri, les opérations militaires conjointes FARDC-MONUSCO ont permis de démanteler le bastion du groupe armé Codeco réfractaire au processus de paix au village Masikini dans les territoires de Djougou. Selon les autorités coutumières locales, de nombreux déplacés qui avaient fui les exactions de ces groupes armés ont regagné leur village. Le trafic est également fluide sur la route nationale numéro 27 où ces miliciens étendaient des embuscades contre les usagers des routes. Des détails avec Isaac Remoyopi.
C'est depuis le 2 octobre dernier que les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO ont lancé l'offensive contre un groupe de miliciens de la Codeco réfractaires au processus de paix dans le secteur de Walendou-Dzatsi, dans les territoires de Djougou. Selon des sources locales, ces hommes armés s'étaient transformés en coupeurs de route sur la RN27, appuyant les véhicules et ils dépouillaient les passagers de leurs biens. Selon les chefs de secteur de Walendou-Dzatsi, ces opérations ont permis de rétablir la paix dans ces milieux. Le bastion de cette milice de Masikine a été détruit. De nombreux déplacés qui avaient fui les exactions de ces inciviques ont déjà regagné leur village d'origine. Ces opérations ont également permis d'écarter les menaces de ces groupes armés sur la route nationale numéro 27. Jiste Goudza, chef de secteur de Walendou-Dzatsi.
On a réussi à mettre ça, le défendu de capement de Codeco. Bon, le dispositif d'abord sécurité sur la RN27 est permanente. La force loyalité est en train de suivre, veiller vraiment à permanence, ce qui permet à ce que la circulation se poursuive normalement.
Cette autorité coutumière plaide pour l'assistance humanitaire aux retournés qui sont dépourvus de tout et dont les maisons ont été incendiées ou détruites. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, la situation de la Miba, la minière de Bakwanga, est récupérable. C'est la déclaration faite hier mardi au polygone minier Mbujimayi par le président du conseil d'administration de cette entreprise. Un jour après la prise de ses fonctions, la nouvelle équipe dirigeante de la minière de Bakwanga est allée faire l'état des lieux du polygone minier où elle a reçu plusieurs explications sur les engins roulants, les sites d'exploitation minière ainsi que la laverie pour le traitement du diamant. Des explications avec Esther Ndalafina.
Au polygone minier, la nouvelle équipe dirigeante de la MIBA a commencé sa visite par le massif 1, encore riche en diamants. Le directeur technique a présenté la carte du polygone minier. Albert Kalongidi-Toutou a indiqué que la MIBA exploite deux types de gisements, le gisement primaire, la kimberlite, et le gisement secondaire ou détritique, constitué des dépôts alluvionnaires provenant de la décomposition de la roche mère. Albert Kalongi.
C'est un massif qui regorge autour de 50 millions d'hectares. Et en termes de réserves, on est autour de 45 millions de carats. Et alors, la teneur géologique de ce massif 1, il est de 2,61 carats au mètre cube.
Au niveau du site Bakwanga, quelques engins roulants non opérationnels ont été visités par la délégation. À la laverie de Dissélé, les autorités de la MIBA ont eu des explications claires autour de l'arrêt momentané de la production ainsi que du fonctionnement de cette usine de traitement de diamants. À l'issue de cette visite, Jean-Charles Lokoto, président du conseil d'administration, affirme que la situation de la MIBA est récupérable.
Nous avons vu ce qui est vrai et que la situation est récupérable avec une bonne volonté.
Signalons que la nouvelle équipe dirigeante prévoit ce mercredi une descente à la centrale hydroélectrique de Tchala dans les territoires de Katanda. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et dans la province du Maniema, une plainte contre les réseaux de télécommunications mobiles a été déposée au parquet général près de la cour d'appel du Maniema par l'ONG Maniema United. Il s'agit des réseaux Orange, Vodacom et Airtel. Selon son avocat conseil, cette ONG va en justice contre ces réseaux de télécommunications mobiles pour mauvaise qualité du réseau dont la population du Maniema est victime. On écoute à ce sujet Maître Ngongo Amissi Jacques au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons initié notre plainte au parquet général près la cour d'appel du Maniema parce que nous avons constaté à Kindu, il y a plus de victimes que les innocents dans le cadre de la mauvaise qualité du réseau télécommunication entre autres Orange, Vodacom et Airtel. Nous avons observé pendant des années que ces réseaux ne s'améliorent pas et c'est comme ça que nous avons décidé à ce jour de saisir le parquet général contre les responsables de tous ces trois réseaux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes au parquet général. Et je pense que la justice fera son travail pour cette fin-là. Dans la ville de Kindu, il y a plusieurs problèmes dans ce sens-là. Quelqu'un peut activer, par exemple, quelques minutes Internet ou minutes de communication, mais les minutes peuvent se vider sans être utilisées à cause de la mauvaise qualité. Ici, je fais allusion à certaines infractions, entre autres la tromperie et l'escroquerie. Parce que c'est la loi qui prévoit cela. Il y a l'article 98 qui parle de l'escroquerie et l'article 99 qui parle de la tromperie. Tout cela existe dans les codes pénals. C'est comme ça que nous avons saisi le parquet, pas pour les faits civils, mais pour les faits pénaux.
Et toujours au Maniema, en bref, l'université de Kindu connaît une forte demande de formation et les facultés ne font que s'accroître. Cette dernière nécessite des moyens pour réaliser quelques projets, dont la construction des auditoires. Ces grands défis ont été révélés par les recteurs de cette université publique, le professeur Deogracias Kimenya Moussa Iloa, hier mardi 10 octobre à Kindu, lors de la double cérémonie de collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2022-2023 au site Luama.
Actualité internationale.
Human Rights Watch a accusé hier mardi les autorités du Rwanda d'être derrière de meurtres, enlèvements et passages à tabac d'opposants vivant à l'étranger. L'ONG de défense des droits humains, qui se concentre sur des abus documentés depuis 2017, s'est entretenue dans ce dossier avec plus de 150 personnes, notamment en France, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Et puis l'ONU a dénoncé hier mardi la répression disproportionnée de plusieurs manifestations avant l'élection présidentielle de novembre à Madagascar, alors que la campagne du président sortant Andry Rajoelina est lancée. L'opposition malgache dénonce une machination du pouvoir pour favoriser le dirigeant.
L'invité.
L'invité de ce journal est le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kadutu dans la ville de Bukavu. Docteur Julien Kassamira parle de l'effectivité de la gratuité de la maternité au sein de cet hôpital. Il s'entretient avec Rachel Kiesembangou.
Docteur Julien Kassamira, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lancé la maternité gratuite. Dites-nous de quoi il s'agit.
On a lancé la maternité gratuite ici chez nous, dans la zone de santé de Kadutu et dans plusieurs autres zones de la province du Sud-Kivu, sur instruction de notre hiérarchie, la décision prise par le chef de l'État. La gratuité de la maternité concerne les femmes enceintes dès la conception jusqu'à l'accouchement. Donc ça voudrait dire que les consultations prénatales, les consultations post-natales, les consultations préscolaires, les accouchements étosiques, ça veut dire les accouchements qui se passent sans intervention extérieure, les accouchements dystosiques, les accouchements pour lesquels on peut avoir intervenu un peu, mais aussi les césariennes sont concernées par cette subvention. Mais aussi la prise en charge des nouveaux-nés de 0 à 1 mois.
Y a-t-il un nombre limité des femmes pour bénéficier de cette gratuité?
La gratuité, c'est pour toutes les femmes enceintes, comme nous avions dit. Selon l'injonction que nous avions reçue de notre hiérarchie, il n'y a pas vraiment un nombre limité.
À l'attention de nos auditeurs, comment cela se fait? Quelle est la procédure à suivre pour les femmes qui vous suivent, qui sont enceintes? Comment elles doivent se présenter? Qu'est-ce qu'elles doivent remplir comme conditions s'il y en a?
Il n'y a pas de conditions et moi je crois que c'est une opportunité pour toutes les femmes enceintes de la commune de Kadutu en particulier, mais aussi de la ville de Bukavu en général, parce qu'il n'y a aucune condition. La condition, c'est d'être enceinte. Donc si on est enceinte, ça voudrait dire qu'on peut bénéficier de cette prise en charge.
Depuis que vous avez sorti et libéré les premiers lots des femmes qui avaient accouché ici à l'hôpital général de Kadutu, combien de femmes ont déjà bénéficié de cette gratuité?
Le nombre, je ne le maîtrise pas encore exactement, mais vraiment c'est une dizaine. Le premier lot que nous avions qui est sorti à partir du vendredi, c'était un nombre de 6. Et déjà aujourd'hui, le deuxième lot va devoir sortir. Depuis le lancement de la gratuité de la maternité, on a remarqué qu'il y a vraiment une fréquentation élevée par rapport à avant pour les services de la maternité. Et il y a quand même de nouveaux-nés que nous sommes en train de prendre en charge en fonction de ce qu'ils présentent comme facteurs infectieux.
Et vous, en tant que médecin, directeur de cet hôpital, que pensez-vous de cette décision?
Moi, je crois qu'elle est la meilleure. Elle est la meilleure, la décision du chef de l'État. Avoir pensé à la population congolaise en termes de gratuité de la maternité. Mais bon, nous attendons voir. Nous pensons que c'est bien d'y avoir pensé. Et c'est encore bien de penser à nous aussi, les structures sanitaires, pour que la gratuité puisse être vraiment effective.
Comment vous faites maintenant avec l'État? Est-ce que l'État vous donne une certaine subvention ou bien par rapport aux frais que les femmes payaient, les factures sont payées comment?
En fait, la gratuité, c'est la gratuité par rapport aux malades parce que le gouvernement congolais, au travers ses partenaires, il y a la Banque mondiale qui a, au travers les lobbying du gouvernement congolais, qui va subventionner cette activités au niveau des hôpitaux qui ont été sélectionnés. Donc ce n'est pas totalement une gratuité, selon l'information à notre disposition. C'est la gratuité, oui, les gouvernements, les chefs de l'État y veillent de sa communauté, mais ça sera subventionné par le gouvernement congolais au travers de la Banque mondiale.
Donc vous, les hôpitaux, vous ne perdez rien?
Jusque-là, nous pensons que nous ne perdrons rien. Et si ça continue avec cette allure et que si ça se concrétise, nous avons foi que ça va se concrétiser, nous pensons que ça pourra être tant soit peu un ouf de soulagement par rapport aux hôpitaux. Parce que nous fonctionnons dans un système d'autofinancement. Il y a les personnels des structures qui ne sont pas payés par l'État. Il y a d'autres qui sont payés. Donc vous comprendrez qu'il y a des contraintes et que si ça se concrétise, ça peut nous aider. Mais on ne peut pas clôturer cette interview sans faire un cri d'alarme à nos autorités. L'hôpital général de Kadutu, c'est un ancien hôpital de la zone de santé de Kadutu, mais qui fonctionne avec les moyens de bord et très difficilement, parce qu'il est sous-équipé, mais aussi avec un personnel qui n'est pas payé. Nous lançons un cri d'alarme au gouvernement congolais de devoir penser encore à son hôpital en termes d'équipement, en termes de formation des personnels, pour que nous puissions prendre en charge nos malades dans toute leur globalité.
Je vous remercie.
Merci.
Notre invité, le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kadutu dans la ville de Bukavu, site Kivu, docteur Julien Kasamira, s'entretenait avec Rachel Kessembangou. Fin de ce journal qui a été supervisé par Martin Seboudjangoué, coordonné par Blaise Sindani Kambala, sous la mise en onde de Jean-Claude Nsiala. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.